Alors, ce sont les voix de service, c'est l'émission qui se prolonge toujours avec Clotilde Seille en votre compagnie. Et je vais aller voir dans quelques secondes ce que nous pouvons trouver comme papier dans Le Devoir. D'abord, à la une en Grèce, Alexis Tsipras a remporté son premier pari. C'est à l'international. À l'international, d'ailleurs, que je vais évoquer avec Gisèle Lalande, qui n'est pas encore arrivée, mais qui, j'imagine, va arriver dans quelques minutes. Prix Gémeaux, c'est la grande réconciliation payante pour Mme Larouche et Mme Snyder. Tourisme Québec, des taxes en hausse pour le privé. Peut-on lire aussi et trouver à la une du Devoir la ministre du Tourisme, Dominique Vien, a donné sa bénédiction à l'uniformisation de la taxe sur l'hébergement ainsi qu'à l'instauration d'une taxe sur les voyages extérieurs selon des informations obtenues par Le Devoir. Et il y a en photo Nicolas Berroir qui a remporté le marathon de Montréal en 2h26 minutes et 42 secondes, dont près de 35 000 coureurs issus de 53 pays ont pris part au moins à une des épreuves. Une épreuve malheureusement assombrie par un décès. On en parlait un petit peu plus tôt de cette jeune femme de 34 ans qui est tout d'un coup tombée inanimée. Il s'agirait d'un arrêt cardiaque qu'on n'a pas pu réanimer. Énergie Est, également à la une du Devoir, des études phoniques menées par l'entreprise. Alexandre Shields écrit « Même si TransCanada a refusé de se conformer à la procédure normale d'évaluation environnementale pour son projet de pipeline Énergie Est, Québec lui a accordé des permis pour mener elle-même des études phoniques en vue d'obtenir le feu vert pour la réalisation des travaux préliminaires », a appris Le Devoir. Des levées sismiques, dont certains effectués à l'aide d'explosifs, doivent d'ailleurs débuter sous peu. Et puis, le point chaud, je vais en parler dans quelques secondes. Il y a cette question, qui donnera la quiétude aux Mégantiquois? L'ex-curé de Lac Mégantic invite les partis à prôner la construction rapide d'une voie de contournement. On voit une photo pour faire écho à ce papier. Avec nous sommes sur des rails et il y a une locomotive de couleur jaune qui est en train de passer juste à côté de quelques ruines qui persistent encore au centre de Lac Mégantic. Et cette légende, la construction d'une voie ferroviaire contournant Lac Mégantic, se fait toujours attendre. Alors donc, comme je vous le disais à la une, oui, l'ex-curé de Lac Mégantic invite les partis à prôner la construction d'une voie de contournement, écrit Marie-Andrée Chouinard du Devoir. Été 2014, un an après la tragédie de Lac Mégantic, le curé Steve Lemay préside une douloureuse mais nécessaire cérémonie. Et devant un parterre ému, on s'en souvient, il procède à l'inhumation des restes non identifiés des victimes du train fou de la MMA. Mais soudain, au beau milieu d'une prière, l'abbé doit s'interrompre car, tout juste derrière le cimetière de la rue Laval, un train passe, sifflant, grinçant, traînant sa carcasse de métal sans égard pour la peine des gens. Ça a glacé tout le monde, il a fallu que je m'arrête. C'est peut-être le sifflement d'un train, mais je ne sais pas si les gens peuvent imaginer la violence de ce bruit pour les familles des victimes qui étaient avec moi ce jour-là. Il y a quelques semaines, alors qu'il était en visite chez des amis à Lac Mégantic, le vacarme du train roulant la nuit exactement là où il roulait dans la nuit meurtrière du 5 au 6 juillet 2013 a réveillé les dormeurs. Et lui aussi, le prêtre, il a sursauté. Il fut saisi au-delà de son propre tourment par la peur de la petite fille de la maisonnée venue chercher réconfort auprès de ses parents alors qu'elle croyait que ce bruit était synonyme d'un nouveau cataclysme. Alors voilà, la détresse se creuse dans la ville. Il y a quelques semaines, vous vous en souvenez, un autre suicide a bouleversé les gens, celui d'Yvon Ricard, le chansonnier qui animait le Musicafé quelques minutes à peine avant le drame et qui fut sauvé par son envie d'aller fumer sur la terrasse. Les gens sont brisés, épuisés aussi, relate M. Lemay. Ils n'ont même plus la force de se battre. Certains sont désabusés et ne croient plus en une solution. Désabusés ? La dernière bonne nouvelle a revêtu la promesse d'une étude de faisabilité pour cette fameuse voie de contournement d'une quinzaine de kilomètres qui permettrait le passage du train essentiel pour l'économie de la ville et la région, tout en redonnant un brin de sérénité aux résidents. Fin mars, la mairesse sortante Colette Roy-Laroche attribuait à la firme d'ingénierie AECOM la responsabilité de mener cette étude financée à moitié chacun par les gouvernements fédéral et provincial, mais celle-ci sera dévoilée dans 3 ans. Ça me dépasse, explique M. Lemay. La sécurité ferroviaire, le transport de matières dangereuses partout au pays, ça touche tout le monde et pas seulement les gens de Lac Mégantic. Qu'est-ce que ça prendra pour qu'on agisse? Se demande l'ancien curé Steve Lemay, l'ancien curé de Lac Mégantic. Toujours dans Le Devoir, Jean-François Nadeau, ce matin, signe un papier qui s'intitule « La réduction ». De quoi s'agit-il? On va beaucoup parler d'éducation et d'universités qui, partout dans le monde entier, subissent également des coupures, peut-être pas au même niveau que les nôtres, mais on s'aperçoit que finalement, c'est dans le monde entier ce problème où l'éducation est en train de passer littéralement à la trappe. Par exemple, il nous parle du Japon. Les étudiants japonais seront moins nombreux à se frotter à l'histoire, à la littérature, à la philosophie et à la sociologie. Dans un monde obnubilé par le seul présent des dominants, le processus de réduction des têtes va partout bon train. À l'évidence, on ne se doute pas de ce que cette situation va déchaîner. Il dit encore, M. Nadeau, les nouveaux capitalistes qui règnent sur le monde sont prêts à sacrifier l'école partout afin de soutenir une idéologie qui n'est en fait que de l'arithmétique. Il raconte que nous allons toucher une nouvelle rive, mettre le pied dans un nouvel Éden. En réalité, écrit-il, c'est un naufrage auquel nous assistons, saoulés par notre propre discours, et il réclame que nous nous mouillons jusqu'au cou pour les sauver, alors qu'il conviendrait plutôt de les jeter à l'eau. Ce n'est pas tout, hein, oui, parce que là, il parle de M. Coiteux qui en appelle à ce que les professeurs se soumettent à ses vues, s'ils ont vraiment à cœur l'intérêt des enfants et non une augmentation de salaire. Méprisés alors qu'on n'a plus que jamais besoin d'eux, les professeurs doivent, à son sens, redoubler d'efforts. C'est ce que pense M. Coiteux, mais en comptant sur toujours moins. Et quoi encore, dit M. Nadeau. M. Coiteux demeure fidèle au discours de ceux qui se goinfrent. Rationner le plus grand nombre pour garder bien portant les privilégiés. Ne soyez pas gourmands, répète-t-il sans arrêt. Il propose ainsi aux Québécois une ACES qui est en réalité de la pure et grossière obscénité. Les petits salariés pris à la gorge, dépassés par la démesure et la fulgurance de ce monde qui les avale, se soumettent pourtant à ces appels au respect d'une limite et d'une prudence. Cela tient à l'idée bien ancrée que tout le monde peut devenir un important, à condition d'accepter les privations du moment. Cette idée est décisive pour la cohésion du système inégalitaire que nous dessinent nos réducteurs de tête. Il faut que tout le monde y croie encore et toujours plus fort pour rester sagement dans sa petite case, au point d'accepter que défavoriser l'intelligence puisse devenir un objectif d'État. Une petite caricature qui va très bien aller avec cette musique guillerette. Intention de vote chez les Canadiennes portant le niqab. Vous vous souvenez, c'était Garnotte la semaine dernière qui nous présentait deux femmes, une avec un niqab rouge et l'autre avec un niqab orange. et celle avec Annika Brouge disait « Moi, je vais voter libéral ». Et elle disait à celle qu'Annika Borange « Et toi, j'imagine, tu vas voter NPD ». Eh bien là, on retrouve les deux jeunes femmes habillées avec leur niqab. Et puis, il y a une troisième femme qui, elle aussi, est en dessous un niqab. Et elle, elle a un niqab d'absolument toutes les couleurs. Bleu, rouge, orange, vert, tout y est. Et celle qui est en orange se penche vers celle qui est en rouge. Elle lui dit « Elle, c'est une indécise ». Juste quelques mots pour vous dire que José Boileau, ce matin, a signé son éditorial sur la protection du citoyen et nous dit que de plus en plus, nous sommes vulnérables. Elle raconte, elle dit que cette année, le rapport de la protectrice du citoyen a une particularité, la mise en garde adressée au ministère de la Santé et des Services sociaux. Faute d'investissement, les services ne cessent de se dégrader et la restructuration du système lancée en 2015 risque de ne rien améliorer. Elle dit que ça a été révélé la semaine dernière par Le Devoir. Dans le cadre de la dite restructuration, des établissements ont décidé de remplacer les commissaires aux plaintes, indépendants, par des délégués qui sont leurs employés. C'est une nouvelle manière de faire douteuse qui découle du projet de loi 10. Le ministre Gaëtan Barrette minimise l'enjeu, mais une plainte a bel et bien été récemment déposée au bureau du protecteur du citoyen. C'est un exemple de service aux usagers qui écopent, dit Madame Boileau, et les resserrements budgétaires toujours aveuglément souhaités par le gouvernement libéral ne corrigeront rien d'autre, lacune, voilà, dûment constatée par Madame Saint-Germain. Mon Dieu, que j'ai du mal. Égard à la sous-traitance, dit-elle, manière prisée des gouvernements pour se délester d'une dépense. S'inquiète-t-on des coûts dès lors assumés par le citoyen, se demande Madame Saint-Germain. En fait, même dans les hôpitaux, de plus en plus de frais sont facturés aux usagers et la protectrice se dit sceptique quant à la volonté du ministère de régler le problème. Autant dire que nous nous enfonçons en payant davantage et que de plus en plus de gens vulnérables écoperont du bel état promis des finances publiques. On le lira dans un an, conclut José Boileau. Gisèle Lalande, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Comment allez-vous?
Ça va très bien avec le beau temps qu'on a ici à Montréal aujourd'hui.
C'est une merveille.
Incroyable.
C'est une merveille.
Terrible d'être enfermée dans un studio sans
oui,
fenêtre.
Oui, j'allais le dire, mais bon, que voulez-vous, en même temps.
On ira jouer dehors.
Ben oui, c'est ça, on ira jouer dehors. Deux sujets pour vous aujourd'hui que vous voulez aborder à cette émission. Vous allez revenir, peut-être, je pense, sur la une du Los Angeles Times d'hier matin.
Sur la question des réfugiés, parce que, bon, j'avais pensé ne pas en parler chaque semaine, mais ça reste un sujet absolument incontournable. Il y avait des unes dans tous les quotidiens du monde pendant toute la semaine sur le sujet. Alors, j'ai choisi, moi, comme vous l'avez dit, la une du Los Angeles Times de dimanche, où on nous annonce une série de 4 reportages. C'est le premier qui était publié hier, c'est signé Patrick McDonald, et ces reportages vont porter sur, et je cite, le mouvement de population le plus important en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il faut voir absolument l'ampleur incroyable. Alors, je vais tenter de résumer. C'est un peu difficile à résumer parce que c'est vraiment un article qui nous raconte des histoires. Mais je me jette à l'eau, c'est le cas de le dire. Bon, alors, on commence l'article. Le petit canot pneumatique qui transportait Ouda Malak, qui est enceinte de son premier enfant, qui tenait à peine à flot au moment où il approchait de l'île de Lesbos. La petite embarcation prenait l'eau de partout, et ce, depuis qu'ils avaient quitté les côtes de la Turquie, distante d'à peu près 6 000. On poursuit, pendant la traversée, les 18 Syriens qui étaient à bord ont essayé désespérément d'écoper l'eau, mais leur petite embarcation était vraiment en train de couler. Alors, ils comprennent à un moment donné qu'ils doivent absolument diminuer le poids, et ils commencent alors à jeter par-dessus bord tout ce qu'ils peuvent jeter, c'est-à-dire leur sac à dos, dans lequel, il faut le dire, tout ce qu'ils possèdent au monde était. À un moment, raconte toujours le journaliste, qui n'était pas là, là, qui s'est fait raconter évidemment l'histoire sur le bateau, Tarek Sheikh, qui est le mari de cette Malak, se lève et juste avant de se jeter à l'eau, il dit je fais ça pour vous sauver, pour sauver notre enfant et sauver tout le monde qui est à bord.
Oh.
Bon, effectivement, ça a fonctionné. Le bateau s'est remis à flotter un peu plus. Ils sont arrivés sains et saufs à l'île de Lesbos. Et là, il raconte, en arrivant sur la plage, tout le monde criait de joie, s'embrassait et peu à peu s'éloignait de la plage, sauf Malek, et je cite, « Elle est accroupie à genoux sur la plage, la tête entre les mains, les yeux fixés au large. » Bon, ensuite, il raconte que le frère de Malak s'est jeté à l'eau pour tenter d'aller au large sauver son frère.
Bien sûr.
Un Grec aussi est parti à l'eau. Bon, le Grec est revenu sur la plage, mais les deux autres, le frère et le mari de Malak, ne revenaient pas. Bon, finalement, la garde-côte a réussi à les repêcher tous les deux. Ils étaient sains et saufs, mais, précise l'article, cette année seulement, il y a 2500 personnes qui n'ont pas eu cette chance. Et pendant le week-end, si vous avez suivi un petit peu les actualités, il y en a eu quelques dizaines de plus qui se sont noyées.
Quel sacrifice!
C'est terrible. Il faut vraiment avoir plus rien à perdre.
Quel sacrifice!
Pour entreprendre un tel voyage, c'est absolument incroyable.
Non, mais même celui qui décide de
De se jeter à l'eau.
Pour que ma femme et mon enfant...
Autres puissent survivre. C'est troublant.
Oui.
Et d'ailleurs, cette série d'articles qui commence est illustrée de plusieurs photos où on voit vraiment des bateaux qui arrivaient sur la plage, sont à moitié dégonflés. Mm-hmm. Les gens ont parfois des vestes de secours. Parfois, ils ont simplement des chambres à air qui sont aussi à moitié dégonflés parce qu'ils étaient de mauvaise qualité. Alors, on laisse un peu l'histoire de Malak et on parle de façon plus générale. On dit cet exode massif qui a provoqué une espèce de caravane humaine est absolument hors contrôle. On le sait, il y a des affrontements qui ont éclaté entre les réfugiés et les forces de l'ordre tout au long du parcours, dans les îles grecques, à Budapest, aux frontières de l'Allemagne, aux frontières du Danemark également. Et la majorité des gens qui voyagent, on le dit, c'est la misère, emportent avec eux très peu de choses. Je cite, un cellulaire, un ou deux sacs à dos, un peu d'argent, souvent des dollars américains, cachés dans leurs vêtements. Cet argent-là, c'est ce qui reste des épargnes de toute une vie. Plusieurs des réfugiés ont vendu tout ce qu'ils possédaient pour pouvoir payer les passeurs qui vont les aider à traverser la Turquie, traverser en Grèce et continuer tout le long du voyage. Parce que quand on n'a pas de papier, quand on est un illégal, qu'on n'a pas de visa, ça coûte très, très cher. Par exemple, cette traversée dont on vient de parler, de 6 000, où les gens risquent de se noyer, les gens paient entre 800 et 1 200 $ par personne, alors que s'ils pouvaient prendre un traversier normal, ils paieraient 17 $
Oh!
C'est absolument fascinant. Alors, il y a d'autres, on en profite un peu aussi pour faire le portrait, pour nous montrer qui sont finalement ces gens, qui ne soient pas anonymes. Alors, le portrait d'autres passagers qui sont arrivés sur la plage le même jour, j'ai retenu quelques petites histoires. Il y a d'abord Cambar, qui porte un coton ouaté gris aux couleurs de l'Université du Colorado. Il explique qu'il a quitté Alep, sa ville natale, où il travaillait, je le mets entre guillemets, comme technicien médical bénévole, ce qui est horriblement dangereux comme travail, dans une ville qui était coupée, qui est toujours coupée en deux par la guerre, avec d'un côté les forces gouvernementales et de l'autre les forces de l'opposition, dont l'État islamique. Il s'est donc retrouvé comme un peu suspect pour tout le monde parce qu'il aidait les victimes des deux côtés. Mon seul crime, dit-il avec une voix qui tremble d'émotion, est d'avoir voulu aider les gens.
Mm-hmm.
On parle aussi de Raed Moutleb, 27 ans, qui lui marche sur la plage avec des béquilles. Il dit que c'est le résultat d'une balle qui s'est logée dans son dos lors des toutes premières manifestations contre le régime de Damas. Mm-hmm. C'était en 2011, il y a 4 ans déjà. Il y a aussi Talal Massoud, 15 ans, qui lui souffre d'un problème génétique rare et qui fait que les muscles des jambes ne fonctionnent pas. Et ce sont tous les membres de sa famille qui le portent à tour de rôle.
Il y avait aussi, à un moment donné, j'ai vu hier des images d'un monsieur qui marche avec une prothèse et donc il a marché ces milliers de kilomètres et lui a décidé, il est parti seul pour essayer de refonder un espace et pour essayer de faire revenir après sa famille. Mais le pauvre type, il pleurait en disant « Je sais dans quoi je les laisse ». Et pourtant, il fallait que je le fasse sur une jambe.
C'est absolument incroyable.
Alors, Gisèle, le Times, le Los Angeles Times a suivi hein, ces migrants-là tout au long de leur voyage en Europe.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est un reportage qui s'étend évidemment sur plusieurs jours, puisqu'on suit Malak et son mari, Tarek, tout au long du voyage. Alors, on les retrouve sur l'île grecque où ils doivent attendre les papiers de la police pour pouvoir ensuite prendre le traversier vers le continent. On nous raconte toutes les difficultés qu'ils rencontrent pendant le chemin. On donne des exemples. En Macédoine, on dit le train qui les amenait à la frontière de la Serbie était tellement rempli, chaud et étouffant que les gens avaient littéralement de la difficulté à respirer. On n'est pas loin des trains de bestiaux.
Oui.
Ils ont été ensuite refoulés trois fois au moment où ils tentaient d'entrer en Serbie. Quand ils ont finalement réussi à traverser de l'autre côté, ils ont été arrêtés, ils ont été séparés, le mari d'un côté, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre.
Et que ça nous rappelle des choses affreuses. Hein?
C'est vraiment épouvantable. Bon, finalement, ils ont réussi à se retrouver, pouvoir continuer leur chemin. Ils se sont reposés un peu à Belgrade, en Serbie. Ensuite, ils ont dû atteindre la Hongrie. On sait, la Hongrie qui est devenue tristement célèbre pour son mur maintenant. À l'époque, le mur n'était pas là, mais on emprisonnait plusieurs migrants, des réfugiés qui se retrouvaient dans des camps de détention sommaires. Ils ont dû se cacher de la police des frontières. Et là, Malak raconte qu'en entendant les vrombissements des hélicoptères, évidemment, pour elle, c'était très traumatisant parce que ça lui rappelait les bombardements en Syrie. Vous parliez tout à l'heure du bruit du train à Lac Mégantic. C'est des sons qui sont terribles.
Exactement.
Et on résume en disant, pendant leur odyssée qui a duré 15 jours, Malak et Tarek ont traversé 7 frontières, couvert plus de 1700 kilomètres en bateau, en train, en autobus, en auto et à pied. Leur bateau a failli sombrer en mer Égée, on le sait. Ils ont été arrêtés, pris dans des camps absolument immondes. Ils ont dû attendre assis le long de voies ferrées complètement isolées. Ils ont dû éviter la police des frontières, marchander avec des passeurs sans scrupules et finalement dépenser toute leur économie. Eux sont arrivés à bon port, mais dans ce qu'ils appellent, eux, la nouvelle terre promise, mais on le sait que c'est une belle histoire. Mm-hmm. Il y en a des dizaines d'autres qui sont moins belles.
Merci beaucoup, Gisèle. Je vous garde. On va peut-être aborder un sujet un peu moins tragique, quoique.
Oui, quoique.
Hein? Avec un gros point de suspension derrière. On va parler de Monsieur Trump, hein, Donald Trump, qui fait dans le comico-tragique, on pourrait dire peut-être.
Oui, ben là pour le moment, ça peut sembler burlesque, un peu drôle de le regarder aller.
Mais
si jamais il était élu président des États-Unis, je pense qu'on rirait tous jaune. C'est un personnage vraiment incroyable. Et j'ai retenu cette fois-ci un article, très très long article d'ailleurs, un portrait dans la revue Rolling Stones. Les gens peuvent penser que ça n'a pas l'air sérieux, Rolling Stones, une revue, une excellente revue où il y a des très grands dossiers intéressants. Alors c'est un journaliste qui a de Rolling Stone, Paul Solotaroff, qui a suivi Donald Trump pendant sa campagne préélectorale, sa campagne pour devenir candidat républicain. Il a suivi pendant une dizaine de jours. Et il trace dans l'article un portrait, évidemment, on pouvait s'y attendre, de Rolling Stone, assez peu flatteur de l'individu, mais il doit reconnaître aussi à la fin de son article, il le dit, c'est un personnage absolument fascinant, absolument incroyable. Ça débute quand M. Solotaroff arrive dans l'avion de M. Trump pour commencer à le suivre, et il raconte que c'est M. Trump lui-même qui lui fait visiter son avion, et je cite, « Alors, je l'ai suivi dans la salle de réunion du Boeing 757 », pour les gens qui connaissent peu les avions, là, pour donner une idée de la grosseur, c'est un avion qui transporte 200 à 300 passagers, 250 en moyenne. Genre d'avion qu'on prend pour traverser en Europe.
Alors, exactement.
C'est pas un tout petit jet privé.
Non.
Alors, il dit, après de passer à côté de trois rangées de fauteuils-lits en cuir de veau pâle, précise-t-il, avec les attaches de ceinture de sécurité plaquées or et le logo de la famille Trump brodé sur les appuis-têtes, j'ai ensuite passé le centre de conférence avec son immense table en acajou et ses 12 gros fauteuils de direction qui est installé tout autour. Je suis passé le cinéma, je serais porté à dire cinéma maison, mais là, il faut dire cinéma avion, avec un écran plat de 57 pouces. Ensuite, une première chambre à coucher qui était meublée avec un canapé en mohair, précise-t-il, qui se convertit en lit double, pour arriver finalement à la chambre des maîtres, où les murs sont tapissés de soie et où la robinetterie de la salle de bain est fait d'un or teinté rose. Vous voyez, on vient de passer d'un univers complètement à un autre univers. À la fin de la visite, c'est M. Trump qui fait toujours cette visite. Je m'approche un peu du micro, je pense que j'étais loin.
Oui.
M. Trump dit « It's bigger than Air Force One ». Air Force One, oui. Évidemment, c'est l'avion présidentiel. Et il ajoute « Savez-vous qu'on a parlé de mon avion sur Discovery Channel ?» Ils ont dit que c'était le jet le plus luxueux au monde. Et vérification faite, parce qu'aux États-Unis, quand on raconte des histoires, on vérifie les faits systématiquement. Solotarov dit « En fait, l'avion n'est pas plus gros qu'Air Force One ». Et l'émission dont parlait M. Trump n'était pas à Discovery Channel, mais au Smithsonian Channel, beaucoup plus petit. Et il ajoute, et ça c'est central un peu sur tout l'article, il dit « Pour ça, comme pour tout le reste, ce qui compte pour Trump, c'est l'image d'ensemble et non pas les détails ». Alors, dans cet avion, il se retrouve donc, il est embarqué pour aller vers le New Hampshire, où M. Trump doit prononcer un discours. Et là, il y a une foule de 2 000, 3 000 personnes qui l'attendent,
comme à chaque fois, comme toujours.
Pendant le vol court de New York au New Hampshire, il essaie de faire une entrevue avec M. Trump, mais il dit que c'est peine perdue. M. Trump, je ne réponds jamais vraiment aux questions. Il monologue avec lui-même et on le sait, il fait toutes sortes de déclarations à l'emporte-pièce. Alors, il donne plusieurs exemples, dans l'article et il rappelle entre autres cette fameuse déclaration en tout début de campagne où Trump avait dit, je cite, « Les gens qui traversent la frontière pour venir chez nous sont des violeurs, des tueurs et commettent des crimes graves sur une base régulière. » Alors, on ne fait pas de quartier, tout le monde est égal. Bon, à cette époque-là, on avait un peu ri de sa déclaration. Il n'était pas pris du tout au sérieux par l'establishment du Parti républicain. Pourtant, depuis ce jour de juin où il a annoncé son intention de se présenter, il est en tête des sondages chez les républicains.
Chez les républicains, bien sûr.
Alors, le journaliste dit « J'ai passé 10 jours dans son entourage. Je l'ai rencontré en privé à plusieurs reprises. J'ai donc pu voir un peu au-delà de l'image et du mythe qui s'est créé lui-même. Et ça m'a poussé à le prendre dead serious, fichument au sérieux. »
Aïe, aïe!
Parce qu'il dit, les supporters de M. Trump, ils aiment chez Trump des faits comme le fait qu'il soit très riche et qu'il s'en cache pas, qu'il soit célèbre. Mais il dit ce qui plaît surtout à ses supporters, c'est son franc-parler. Son message de campagne est assez simple et Solotarov le résume de cette façon. « Je suis fort, les politiciens sont des faibles. J'ai mon franc-parler, je retire jamais mes paroles. » Les politiciens mentent et sont des lâches. Ils brandissent sans arrêt le drapeau blanc devant nos ennemis. Moi, je vais reconstruire ce pays et je ferai tout pour que nous soyons les plus craints dans le monde entier.
Ouais.
Et il dit, les gens, ce qu'ils aiment, c'est que M. Trump dit tout haut des choses qu'ils n'auraient jamais, eux, osé dire ailleurs qu'autour de leur table de cuisine. Alors, il exprime avec un génie incroyable la pensée d'une certaine Amérique qu'il aime bien.
Qu'il aime bien, c'est ça, et qui le suive. Merci beaucoup. Nous, évidemment, on va suivre ça parce que vous aviez raison de le préciser au tout début. Si, là, en ce moment, ça nous fait sourire. Moi, ça me fait plutôt grincer des dents.
Reagan était un homme cultivé et subtil comparé à M. Trump.
Voilà. Par rapport à M. Trump, quoi, c'est ça. Gisèle, on vous retrouve la semaine prochaine.
Certainement,
Gisèle
Clotilde.
C'est
moi, je vais aller jouer dehors. Je vous laisse travailler un peu.
Merci, au revoir.
Salut, Clotilde.
Salut.
C'est Kevin Breton qui prend la relève de Clotilde Say. Seulement pour quelques minutes, le temps de vous lire l'actualité sportive. Bien, tout d'abord, le Québécois Nicolas Berroir a été récompensé hier pour ses efforts alors qu'il a remporté la 25e présentation du Marathon de Montréal. C'est un article de Benoît Rioux dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. L'athlète originaire de la région de Shawinigan a indiqué « Je ne m'attendais pas à gagner et je peux te dire que c'est l'une des plus belles journées de ma vie. Je voulais être sur le podium, mais une première place est au-delà de mes espérances. » Complétant les 42 195 km, les 42,195 km et non 42 000 km. Sinon, ça ferait un trajet un peu long. En 2h26 minutes et 43 secondes, Berroir a signé son meilleur chrono à vie. Il a ainsi devancé un autre Québécois, soit David Savard-Gagnon, par 13,8 secondes. Au total, le marathon Oasis Rock'n'Roll de Montréal a compté 34 287 inscrits. Le décès d'une femme de 34 ans, participante du demi-marathon, a malheureusement assombri la journée. Malgré une température clémente, une douzaine de coureurs ont par ailleurs dû être transportés à l'hôpital. Dans le cas de Berroir, une fois sa victoire confirmée, il s'est jeté dans les bras du réputé Marcel Jobin, ancien marcheur olympique et son précieux conseiller à l'entraînement. Il faut savoir qu'avant d'en arriver à ce triomphe au parc La Fontaine, Berroir a dû augmenter considérablement son volume d'entraînement. Celui qui occupe un emploi de coordonnateur recherche et développement au Centre national en électrochimie et en technologie environnementale à Shawinigan a avalé de 175 à 200 km par semaine au cours des derniers mois. Comme Marcel me disait, le secret de la réussite, c'est vraiment les kilomètres que tu vas faire pendant la saison. Ça ne passe pas nécessairement à la course, mais dans les mois précédents, a expliqué Berroir. Dans le cas de Marcel, c'est quelqu'un qui me donne beaucoup confiance, car il connaît la recette pour gagner, a souligné le héros du jour, rendant hommage à ce pionnier de l'athlétisme qui vit également en Mauricie. Ben, le camp d'entraînement du Canadien bat son plein. Il y a un nouveau trio qui fait écarter déjà bien des yeux, celui d'Alex Galchenyuk, avec le nouveau venu Alexander Semin et Lars Eller qui est muté à l'aile gauche. Jonathan Bernier en fait part dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Le titre, encore des étincelles. Pour une deuxième fois en autant de jours, le trio d'Alex Galchenyuk a complètement dominé la surface de jeu. Flanqué d'Eller et de Semin, l'Américain a enfilé l'aiguille à deux occasions, menant les Blancs à un gain facile de 6-2 contre les Rouges. Bien sûr, il ne s'agissait que d'un match intra-équipe, mais les nombreux spectateurs présents au Centre Bell ont pu remarquer une belle complicité entre ces trois joueurs. À plusieurs occasions, Semin a démontré la fluidité de ses mains, tantôt en récupérant la rondelle après l'avoir fait passer entre les patins de Fleischmann, tantôt en ridiculisant Markov avant de repérer Galchenyuk, oublié, à l'embouchure du filet. Nous n'en sommes qu'à la troisième journée du camp. C'est vrai que nous nous entendons bien, mais il ne faut pas oublier qu'il reste encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de points à améliorer, a rappelé Galchenyuk. Il ajoute en disant « Je ne sais pas ce qui fait que ça a cliqué si rapidement entre nous, mais nous sommes trois joueurs habiles et nous n'avons pas peur d'essayer de nouveaux trucs. » Jusqu'à maintenant, Michel Therrien semble avoir vu juste en réunissant Galchenyuk et Semin. Une expérience sur laquelle il avait dévoilé ses intentions dès la tenue du tournoi de golf, on s'en rappelle. S'ils continuent comme ça, ils vont rester ensemble. C'est certain, a lancé l'entraîneur du Canadien au terme de la rencontre. J'adore la chimie et j'aime les voir provoquer autant de choses. Celui-ci a pris soin de rappeler qu'on aurait tort de s'emballer trop vite. La plus belle preuve en est les bonnes performances livrées par le trio composé de Pacioretty, Desharnais et Parenteau à l'automne dernier. Tout feu, tout flamme lors du camp d'entraînement, ce trio n'a pas survécu à la première semaine du calendrier régulier. Michel Therrien a indiqué « J'ai hâte de voir comment ils se comporteront en match préparatoire. On espère que la chimie continuera d'opérer. » Question d'expérimenter le nouveau déroulement de la prolongation, les six dernières minutes ont été disputées à 3 contre 3. Contrairement à ce qui avait été observé lors du tournoi des recrues à London, les montées spectaculaires furent rares. Ce qui n'a pas empêché Dale Weiss de marquer un superbe but en échappé. Michel Therrien a mentionné « La prolongation à 3 contre 3 offrira un bon spectacle aux amateurs. Plusieurs joueurs avaient hâte de l'essayer. » Pour sa part, Galchenyuk a déclaré « On ne savait pas trop à quoi s'attendre. On a constaté qu'il y a beaucoup d'espace sur la patinoire pour utiliser notre imagination, mais qu'il est dangereux et facile d'oublier l'aspect défensif du jeu. » Le Canadien disputera un premier match préparatoire demain en recevant la visite des Maple Leafs. Toujours au sport et toujours chez le Canadien, mais cette fois-ci dans un article tiré de la presse et signé Guillaume Lefrançois, on dit « un départ canon pour Charles Hudon ». On l'a déjà dit et on se répète, le Canadien affiche essentiellement complet à l'attaque. Si un Daniel Carr ou un Sven Entrigetto souhaite se tailler une place, il devra être bon au point où Marc Bergevin devra conclure une transaction pour échanger un vétéran. Charles Hudon, visiblement, ne s'est pas arrêté à cette congestion, qui est d'autant plus lourde à sa position. L'arrivée d'Alex Galchenyuk au centre a en effet forcé Michel Therrien à déplacer Lars Eller à l'aile. De ses performances au tournoi des recrues à London à son travail acharné dans les trois premiers matchs intra-équipe de la fin de semaine, Hudon s'est établi comme le meilleur attaquant parmi les espoirs du tricolore. Hier, dans un match disputé devant des milliers de spectateurs au Centre Bell, le Québécois s'est montré particulièrement impressionnant en deuxième période. Le trio qu'il forme avec Andri Ghetto et Devante Smith-Pelly a passé la période à bourdonner en zone adverse. Leurs efforts ont été récompensés quand Hudon a repéré Andri Ghetto devant le filet et que le petit Suisse a marqué. Pour Hudon, c'est le jour et la nuit en comparaison avec son camp de 2014. L'an dernier, il avait été limité à une aide en quatre matchs intra-équipe et il faisait nettement moins parler de lui. Il dit « Je tire moins de la patte, c'est sûr et certain. » Dans le vestiaire du Centre Bell. Donc, c'est une citation qu'il a dit dans le vestiaire du Centre Bell, excusez-moi. « Je vois que je me suis amélioré dans mon coup de patin, dans ma force physique. Avant, je voyais beaucoup la différence avec les vétérans. Maintenant, je la vois moins. C'est un bon début de camp. Il faut juste continuer. » Michel Therrien, lui, s'est montré prudent. On comprend aussi l'entraîneur-chef de ne pas trop vouloir encenser un jeune. D'abord, parce que son directeur général devra prendre quelques décisions déchirantes au cours des prochaines semaines, mais aussi parce qu'il reste encore deux longues semaines à ce camp d'entraînement. Therrien a donc refusé de complimenter exclusivement Hudon. « Ça fait un an, dit-il. Tu regardes Hudon, Andri Ghetto, Carr, Thomas. Ce sont des genres de joueurs dans le même moule qui se ressemblent et on voit leur progression d'un camp à l'autre. Ils approchent ce camp avec un an de plus chez les pros. Ils sont plus confiants, ils sont plus forts, ils sont plus calmes avec la rondelle. Tu vois une nette amélioration. » Je rappelle que c'est un texte de Guillaume Lefrançois dans la presse d'aujourd'hui. Dernière nouvelle en ce qui a trait au hockey, Beck a eu la frousse de sa vie. C'est un article d'Olivier Thériault dans le Journal de Montréal qui fait référence, évidemment, à la blessure à la tête de la recrue de l'Océanique qui a créé tout un émoi dans la LHGMQ en fin de semaine. Donc, malgré l'émoi qu'il a créé, Samuel Beck s'en tire avec la frousse de sa vie. De retour à Rimouski, la recrue de 17 ans récupère du coup à la tête dont il a été victime samedi, qui a nécessité la suspension du match, il faut le rappeler, entre l'Océanique et le Drakkar au centre Henri-Léonard de Baie-Comeau. Pendant que ses coéquipiers se payaient un long retour en autocar sur la route 138 pour contourner le fleuve Saint-Laurent, Beck a profité d'un transport plus spacieux hier sur le nouveau traversier F.A. Gauthier, naviguant entre Matane et la Côte-Nord, accompagné du thérapeute sportif Maxime Provencher. Le jeune attaquant a reçu la veille son congé de l'hôpital. Les équipes médicales de l'Océanique et du Drakkar ont démontré tout leur savoir-faire pour lui venir en aide. Alors qu'il reprenait ses esprits au banc, Beck a été victime d'un malaise quelques minutes après avoir encaissé une mise en échec à la tête, gracieuseté de Simon Desbiens. Le défenseur s'est emmené dans son angle mort pour le frapper au moment où il tentait de récupérer la rondelle près de la ligne bleue du Drakkar. Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, a décidé de reporter les hostilités entre les deux équipes à une date ultérieure, après avoir discuté de l'événement avec le directeur de la sécurité des joueurs, Raymond Bolduc, qui était présent à la rencontre. Selon l'entraîneur-chef de l'Océanique, Serge Beausoleil, les premiers répondants ont cru que Samuel Beck s'était fracturé la colonne vertébrale, ce qui a rapidement nécessité son immobilisation et son transport vers l'hôpital. Le personnel médical a effectué un travail exemplaire. Je ne pouvais pas dire aux gars que tout irait bien car je n'avais aucune idée de ce qui se passait au moment où Samuel a quitté sur une civière. Ce fut tout un tourbillon parce que je discutais de la situation avec messieurs Bolduc et Steve Aaron, directeur général du Drakkar. La décision de suspendre le match était très responsable puisqu'il y avait une inquiétude collective quant à l'état de santé de Samuel. Il fallait d'abord rassurer ses parents, explique le grand patron des Bleus. Puisqu'il a visionné la séquence de jeu samedi en compagnie de Raymond Bolduc après le match, Beausoleil ne désire pas utiliser les médias pour s'immiscer dans son travail disciplinaire. Il laisse le soin au préfet de discipline dans la LHMQ de trancher s'il doit sanctionner Simon Desbiens pour son geste. « Ça demeure le genre de mise en échec qu'on veut proscrire dans la LHMQ », mentionne-t-il, tout de même au passage. Au repos complet, Samuel Beck rencontrera les médecins de l'Océanique dans les prochains jours pour en savoir plus sur sa condition physique et déterminer la durée de son absence. On lui souhaite un prompt rétablissement. Sébastien Vettel et Ferrari ont brillé de mille feux hier soir sous les projecteurs du Grand Prix de Singapour de Formule 1 et a profité au maximum de l'abandon du leader du championnat, Lewis Hamilton. C'est un texte tiré du Journal de Montréal d'aujourd'hui. Que dire? Quelle journée? Vous m'entendez bien? Forza Ferrari, a dit Vettel, euphorique et tout enthousiaste sur sa radio de bord, au bout de 61 tours intenses torrides dans les rues de la cité-État. Au bout d'une course épargnée par la pluie, mais disputée par 80 % d'humidité devant plus de 86 000 spectateurs payants et transpirants, le podium a été complété par la Red Bull de l'Australien Daniel Ricciardo, son ancien coéquipier dans l'écurie autrichienne, et par l'autre pilote de la Ferrari, le Finlandais Kimi Räikkönen. Ça doit être l'une des plus belles courses de ma vie, a admis Vettel sur le podium après sa 42e victoire à F1, dont 4 à Singapour et 3 cette saison. Il dit « La voiture de sécurité nous a permis de respirer un peu ». Il a ajouté « Alors que les deux neutralisations à course ont chaque fois réduit à néant l'écart qu'il avait réussi à creuser en tête ». Parti en position de tête grâce à des qualifications parfaites samedi soir, Vettel a frappé 3 fois. D'abord au départ en s'envolant de manière impeccable et en prenant 3 secondes d'avance sur Ricciardo dès le premier tour. Puis lors des deux neutralisations de la course, il a porté le troisième coup. La première fois que la voiture de sécurité est sortie, c'était au 14e tour, quand la Williams de Felipe Massa, qui sortait des stands, a refusé la priorité à la Force India de Nico Hülkenberg, qui arrivait lancée. Le temps de balayer les débris, dans un pays où la quête de propreté dans les rues est quotidienne, et l'écart avait fondu de quelques secondes à quelques dixièmes. Donc c'était un texte, comme je le disais, du Journal de Montréal d'aujourd'hui sur la victoire de Vettel hier au Grand Prix de Formule 1, alors que je salue mes collègues Clotilde Seille et Marianne Paquette qui viennent tout juste d'entrer en studio. Allô?
Merci. Bonjour, beaucoup, Kevin. Allô? Ça va bien?
Oui, ça va bien, merci.
Bonne nouvelle de sport. Bon, oui. Donc c'est ça, M. Vettel a gagné,
puis toutes sortes de choses. Puis on a parlé du Canadien aussi, là, qui dispute demain son premier match préparatoire.
Avez-vous vu Max Pacioretty aux Gémeaux?
Oui.
Qui a annoncé un prix.
Non, j'ai manqué ça.
Oui, et qui est le seul qui a obtenu une ovation debout. Oui. D'ailleurs, d'ailleurs, il y en a quelques-uns que ça a fait un petit peu tiquer. Est-ce bien normal? Est-ce bien raisonnable que ce soit, en tout cas? Merci beaucoup, Kevin. On se retrouve demain.
À demain.
Au revoir. Bonne journée. Bonjour Marianne Paquette.
Bonjour Clotilde.
Ça va bien ce matin?
Ça va très bien, surtout que je vous parle d'humour. Quel beau sujet pour commencer la semaine.
Allons-y. Et surtout avec votre beau rire, que j'espère qu'il va retentir dans ce studio. J'adore votre rire.
L'humour qui serait bon pour la santé, Clotilde, et ce sera d'ailleurs l'un des sujets de ma semaine, assez bon pour la santé, et notamment en milieu de travail. C'est un texte écrit par la psychologue Cynthia Turcotte. Ça vient d'un blog qui s'appelle LIM, qui est destiné principalement aux gens d'affaires, donc un blog multiplateforme qui s'intéresse à plein de sujets. Et elle nous dit, Cynthia Turcotte, que les psychologues, les spécialistes s'entendent pour dire que l'humour est de manière générale une façon mature de réagir au stress au travail. C'est un mécanisme de défense adaptatif. Avoir le sens de l'humour nous aiderait à voir les difficultés et les obstacles de la vie comme des défis. Le rire, soit la réaction physiologique associée à l'humour, stimulerait les endorphines qui sont les hormones du bonheur. Mmh. Plusieurs chercheurs clament que l'humour, oui, peut favoriser une variété de processus organisationnels au travail. Il est généralement reconnu que les patrons, et ça c'est intéressant, les patrons qui utilisent l'humour sont davantage appréciés. Un petit coucou à Louise Vien, Jean-Richard Lefebvre ici. L'humour aiderait à construire et à soutenir les relations interpersonnelles dans le milieu de travail, en plus de faciliter les processus de groupe. Avoir le sens de l'humour augmenterait la créativité dans la résolution de problèmes. Elle nous rappelle toutefois, cette psychologue, qu'il y a peu d'études qui viennent prouver vraiment que l'humour en milieu organisationnel peut vraiment avoir des bienfaits sur la santé mentale. Il y a peu d'études. C'est plutôt une croyance que l'humour et le rire sont vraiment bons pour la santé, quoique il n'y a pas non plus d'études contraires qui pourraient nous dire que ça nuit.
De toute façon, ça peut pas. Je vois pas en quoi ça pourrait nuire. À la limite, au travail, si on ne fait que ça, si on passe son temps à déconner, comme on dit, et puis mais sinon...
Mais un petit peu plus tard, elle va expliquer 4 types d'humour. 2 seraient bons pour la santé et 2 plus nuisibles.
Oh.
Elle nous pose toutefois cette question. c'est quoi au juste l'humour? Et nous dit que c'est certainement plus compliqué qu'on le croit. Elle rappelle que ça peut avoir différentes définitions selon les personnes. Ça peut être une forme d'intelligence, ça peut être une émotion, quelque chose qui provoque le rire, une forme de communication ou d'interaction avec les autres. Ça peut témoigner d'un trait de personnalité. Et aussi, et c'est important qu'elle le rappelle, c'est un phénomène qui existe dans toutes les cultures, l'humour.
Oui.
Et maintenant, elle explique les quatre types d'humour. Ça vient vraiment de recherche. Il y a des psychologues, des spécialistes qui se sont penchés sur la question. Il y aurait en premier lieu l'humour affiliatif. Donc, je retrouve mes feuilles ici, oui. L'humour affiliatif, qui est un humour utilisé au bénéfice des autres ou pour renforcer les liens interpersonnels. Par exemple, c'est la blague d'initié, le inside joke, mm-hmm. une taquinerie gentille. Et le but, c'est de faire rire le groupe. En deuxième lieu, un humour agressif, qui est plutôt utilisé pour établir son pouvoir, diminuer les autres. C'est quand on rit méchamment des autres. Oui. Et c'est aussi pour rabaisser, ou on utilise le sarcasme pour rabaisser ou diminuer les autres. C'est un type d'humour qui vise à soulager une tension ou encore à attirer l'attention sur soi en diminuant une autre personne. En troisième lieu, l'humour renforçant pour soi-même, je l'aime bien celui-là, qui est utilisé pour soutenir quelqu'un en adoptant une manière de penser humoristique. Par exemple, un ami va pas très bien, on l'amène au cinéma voir un film drôle, ou encore on lui fait une blague, on rappelle un événement du passé qui était drôle, parce qu'on sait que cette personne va traverser un moment stressant ou elle vit une période plus pénible dans sa vie.
On va l'aider, comme j'adore cette expression mi-anglo, mi-québécoise, mais on va l'aider à déploguer, quoi.
Oui, voilà.
Hein?
Oui.
Bon, c'est ça.
À se dilater la rate.
Voilà. Oui, c'est ça.
Quatrième lieu, l'humour rabaissant pour soi-même serait utilisé pour obtenir une faveur ou la sympathie en se diminuant soi-même. Ça aussi, parfois... Bon, on va le sentir. Et que je suis niaiseuse.
Ça,
c'est un exemple que l'on entend assez souvent. Ce serait peut-être pas tout à fait positif. Elle nous le dit d'ailleurs, la psychologue Cynthia Turcotte. L'humour affiliatif, comme l'humour renforçant pour soi-même, se montrerait lié au bien-être psychologique chez un individu. Ces deux types d'humour seraient aussi reliés à un fort sentiment d'accomplissement au travail, tandis que l'humour agressif et l'humour rabaissant pour soi-même ne seraient pas nécessairement bénéfiques, même si c'est de l'humour. Et elle dit même que ça peut témoigner de signaux d'alarme associés à l'épuisement professionnel, à la fatigue émotionnelle, à l'anxiété, une faible estime de soi-même.
Donc, on
peut y être attentif. Et en terminant, elle nous dit qu'il faut justement rester attentif à ces signaux-là qui peuvent cacher... Bon, ces types d'humour-là peuvent cacher certains signaux de dépression, d'anxiété. D'ailleurs, plusieurs ont tenté de mieux comprendre le type d'humour utilisé par Robin Williams, grand comédien et humoriste, après son décès par suicide en novembre 2014, qui, selon plusieurs sources, serait associé à un état dépressif.
Oui.
Et cet article nous laisse sur quelques blagues de ce grand artiste.
Oui.
J'ai envie de vous laisser là-dessus.
Oui.
Donc, c'est vraiment des citations de l'acteur américain. Oui. Les ballerines sont toujours sur la pointe des pieds. Pourquoi n'engage-t-il pas des plus grandes?
oui, c'est adorable.
Aussi, adolescent, j'étais pyromane. On m'a placée dans un foyer.
Oui, elle est bonne.
Et pour terminer, attention aux oreilles plus sensibles, à un moment, on réalise que Dieu nous a donné un cerveau et un pénis et pas assez de sang pour les faire fonctionner en même temps.
En même temps? Robin Williams. Mais vous savez que dans mon émission « Des livres pleins les oreilles », à un moment donné, j'évoque que ça va être diffusé dans 2 semaines. Il y a une biographie qui a été écrite après la disparition de Robin Williams. Il est dit que ça n'était pas vraiment des rumeurs. Il s'est soigné toute sa vie contre un état dépressif.
Ouais.
Notre ami Robin Williams. Et ça s'est mal terminé. Mais enfin, donc, mettons que pour les gens de l'entourage, ça n'a pas été la surprise, la même surprise que pour nous, qui n'avons toujours vu que cette espèce de clown, surtout.
Le clown triste.
Le clown triste, c'est quand on parle de cette image. Merci beaucoup. Rappelez-nous, Marianne, quel jour vous allez parler d'humour à l'émission?
Mercredi, avec une psychologue qui a fait une maîtrise sur le sujet, mais l'humour global.
Global.
L'humour pour la santé.
Ne manquez pas ça mercredi, rappelez-nous l'heure.
14h.
Merci. Alors, en région maintenant, j'ai envie d'aller voir avec vous ce qui s'écrit dans les pages du Soleil. On parle de coupes qui font mal, notamment l'abolition de postes dans la fonction publique fédérale entamée en 2012, qui a laissé des traces partout au Québec. Ils font un tour d'horizon assez long, ma foi, de ces sévères coupes dans l'est de la province, assez pour qu'on en ait pour quatre pages. Et notamment, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on nous dit ici qu'on va connaître de lourdes pertes en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Ceux qui croient, écrivent Geneviève Gélina et Gilles Gagné, ceux qui croient que les 9 ans de gouvernement fédéral menés par Stephen Harper ont été durs pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine ont des raisons de le soutenir, alors que le nombre de fonctionnaires fédéraux a grimpé de presque 3% dans l'ensemble du Canada entre 2006 et 2015. Il a chuté, imaginez-vous donc, de 28% dans cette région. Le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord ont quant à eux connu des hausses légères dans le premier cas et importantes dans le second. Entre mars 2006, 2 mois après l'élection de Stephen Harper, et mars 2015, la fonction publique fédérale s'est accrue de 7102 postes au Canada, représentant une hausse de 2,8%. Il y a maintenant un peu plus de 257 000 fonctionnaires au pays, selon des données fournies par le Conseil du Trésor. Ottawa et Gatineau ont ainsi gagné plus de fonctionnaires que tout le pays, qui en aurait perdu si on exclut le décompte des gains de la capitale fédérale. Au Québec, si on exclut la portion Gatineau, le nombre de fonctionnaires a baissé d'un peu plus de 31 000 à un peu plus de 29 000, une perte de 5,5% ou 1694 postes. La Gaspésie et les îles ont ainsi vécu des compressions bien plus fortes que les coupes québécoises, puisque le nombre de fonctionnaires fédéraux y a chuté de 257 à 186 depuis 2006, soit, comme on le disait en préambule à ce papier, près de 28% de moins. Et l'éditorial ce matin dans la presse signée par Brigitte Breton porte sur la santé mentale. Elle se demande, est-ce enfin une lueur d'espoir pour les personnes souffrant de maladies mentales et leurs proches ou une autre promesse sans lendemain? Elle parle du fait que le ministre Gaétan Barrette promet que le plan d'action qu'il présentera sous peu placera les soins en santé mentale sur un pied d'égalité avec les autres types de soins, rien de moins. Si tel est le cas, écrit Mme Breton, on pourra dire que le Québec franchit un grand pas et qu'il s'attaque enfin à un aspect négligé de la santé des jeunes et des adultes. Après plus d'un rapport annuel ou spécial sur le sujet, la protection du citoyen est revenue à la charge la semaine dernière. Les soins et les services en santé mentale comptent-ils vraiment parmi les priorités du ministère de la Santé et des services sociaux? Force est de constater que ce n'est malheureusement pas le cas. En effet, 10 ans après la parution du plan d'action en santé mentale 2005-2010, aucune mesure ne vient réellement mettre au premier rang le développement et le déploiement des services, alors que les besoins sont aussi cruciaux que croissants, conclut Raymonde Saint-Germain, qui expose une fois de plus des cas tristes à pleurer. Suicide, délai interminable de prise en charge, liste d'attente, rupture de service, clientèle vulnérable laissée à elle-même, inégalité des régions, des services d'une région à l'autre, manque de collaboration entre les professionnels de la santé. Les problèmes se répètent, écrit Mme Breton. Et le ministre Barrette a affirmé jeudi que les remarques de la protection sont une lecture du passé. Si le ministre livre la marchandise, on pourra parler de petites révolutions. Il y a beaucoup à faire en ce domaine et le protecteur du citoyen n'est pas seul à le dire. En 2012, après 2 ans de travaux, le commissaire à la santé et au bien-être relevait lui aussi les lacunes dans l'offre de services et dans la répartition du financement alloué à la santé mentale et invitait Québec à agir d'urgence. Thank you. Voilà un long délai, pardonnez-moi, tout d'un coup, je pense que mon appareil n'arrivait plus à trouver d'onde Wi-Fi pour lui permettre de s'ouvrir adéquatement. Dans la tribune maintenant, Alexandre Faye nous titre son papier « La guerre des tuques, des vêtements chauds pour les réfugiés irakiens ». Ça vous en dit nettement plus tout de suite. Un tuque, des mitaines, un cache-cou, des bottes, un manteau, des pantalons de neige, autant de pièces vestimentaires qui étaient fondamentalement obsolètes pour Adèle il y a de cela 5 jours. C'est que la semaine dernière, Adèle fuyait encore la guerre. Il est l'un des plus récents réfugiés irakiens dont on vous a parlé, arrivé à Sherbrooke dans la dernière semaine en compagnie de ses 4 enfants. Alors, nouveau pays, nouvelle vie et puis aussi une nouvelle condition météorologique pour lui à quelques mois de ses premières journées sous le 0 degré Celsius. Il dit « J'ai déjà une idée préconçue qu'il y a un froid glacial dans toutes les régions du Canada ». Mais je viens d'arriver d'Irak, où les températures atteignent les 50 degrés Celsius. Alors, ça va faire une grande différence, note l'homme par l'entremise d'un interprète. L'adaptation d'Adèle a grandement été facilitée par la communauté sherbrookoise et l'église syriaque orthodoxe de Sherbrooke, qui prend en charge les réfugiés du Moyen-Orient dès leur arrivée. Hier, il a reçu un autre coup de pouce lorsque le groupe communautaire montréalais Entraide Bois de Boulogne a distribué à ses 4 enfants le nécessaire en vêtements hivernaux dans le cadre du programme « Mon premier habit de neige au Québec ». Ben ça, c'est absolument fantastique et je dis bravo à ces gens qui viennent en aide à ces Irakiens qui viennent tout juste d'arriver au pays. À l'émission Les Voix de service, on s'intéresse aussi aux actualités culturelles. Et on commencera, ce serait difficile de faire autrement, on commencera cette section par les 30e prix Gémeaux, la remise des prix Gémeaux. Je dois vous avouer que je ne suis pas quelqu'un qui... Ça m'énerve un petit peu, ces soirées galala, mais je me suis laissé prendre hier. Je l'avais enregistré, évidemment, pour me prendre un petit peu d'avance, pour éviter ce que vous savez. Mais je me suis laissé prendre. J'ai trouvé qu'il y avait des très, très beaux moments. Alors, dans la presse aujourd'hui, c'est Richard Thérien, donc c'est aussi dans Le Soleil et dans la presse, qui nous dit que le grand gagnant de cette soirée, c'est assurément Les Beaux Malaises, sacrée meilleure comédie, et son couple vedette Martin Matt et Julie Le Breton, meilleurs acteurs dans une comédie. Au mieux de sa forme, Matt en a profité pour installer un très beau malaise, remerciant son équipe technique qui n'a jamais débrayé. C'est une citation. Et il a dit, Monsieur Matt, quand on impose un rythme qui met en danger la santé des techniciens et des comédiens, c'est inacceptable et il faut se le dire. Un malaise dont Fabienne Larouche serait sûrement passée, mais ce sera la seule allusion de la soirée aux récents événements sur les plateaux de Blue Moon et de Rupture. Alors, à qui ont été remis ces Gémeaux-là, si vous avez raté la soirée? Série dramatique saisonnière, oui, alors ça, tout le monde faisait des petits sourires, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on appelle saisonnière, qu'est-ce qu'on appelle annuelle, c'est assez confus tout ça, mais enfin bon. C'est la série dramatique saisonnière, c'est 19 qui a été primée. La série dramatique annuelle, c'était 9, la saison 3. Les Beaux Malaises, bien sûr, je vous le disais. Rôle masculin, série dramatique saisonnière, Claude Legault dans 19-2. Rôle féminin, série dramatique saisonnière, Macha Grenon dans Nouvelle Adresse. Rôle masculin, série dramatique annuelle, Guy Nadon dans Eau. Rôle féminin, série dramatique annuelle, Sophie Lorrain dans Au secours de Béatrice. Rôle masculin, comédie, Martin Matt dans Les Beaux Malaises. Rôle féminin, comédie, Julie Le Breton dans Les Beaux Malaises. Animation, émission ou série d'entrevues ou talk show, c'est Eric Salvay qui a reçu cela et je veux dire qu'il était bien ému, le Eric. Alors, on continue tout de suite dans les coulisses des Gémeaux. Il y a évidemment beaucoup de réactions. Et j'aime bien ici dans la presse, notamment, on nous présente quelques citations des uns et des autres. Par exemple, Éric Salvaille qui a dit « Patrice Lécuyer veut redevenir comédien. Faut-tu être assez riche ?» Véronique Loutier a dit « C'est comme si un PDG de compagnie vous laisse lancer en politique, en ouverture de gala, devant le couple, évidemment, de Pelado Snyder. » Aussi, donc Martin Matt qui a dit « Je m'adresse à l'industrie de la télé, on travaille fort, on fait des grosses journées, c'est un métier important, mais quand on coupe et qu'on impose un rythme qui met en danger la santé des techniciens et des comédiens, c'est inacceptable et il faut se le dire. Ça me demande du courage de vous dire ça, mais on sait tous qu'il y a une équipe qui a débrayé. Il ne faut pas l'ignorer. Il faut juste s'en servir pour protéger nos sens. Cela dit, je suis très heureux et c'est un très, très beau gala. » Claude Legault, qui a reçu, je vous rappelle, le prix pour le premier rôle masculin, qui a dit « Ça me fait énormément plaisir parce que Ben Chartier, je pense que c'est un des personnages que j'ai le plus aimé de toute ma carrière. Si des fois j'arrive à me dépasser, c'est parce que je suis challengée et que je côtoie des gens qui sont très forts. Alors merci Réal Bossé pour cette puissante relation amour-haine de Béroff et Chartier. » Madame Larouche, quant à elle, a déclaré « Cette année, c'est fini, mon écriture quotidienne. Je ne peux pas remercier mon auteur parce que c'est moi. » C'est sûr. Mais j'ai quand même écrit 40 à 42 pages par jour depuis 20 ans. Je veux remercier tout le monde et vous savez, surtout les enseignants, je veux les saluer profondément. Et enfin, Macha Grenon qui a tenu pour son prix pour un premier rôle féminin dramatique saisonnière pour Nouvelle Adresse, c'est son tout premier Gémeaux. Elle dit « Je vous remercie Richard Blémer d'avoir eu le courage de raconter une histoire qui allait au fond des choses avec profondeur, humanité. Sophie Lorrain, tu m'as choisi pour interpréter le rôle de Nathalie. Tu m'as soutenu de ton énergie du feu des dieux quand j'étais dépassée. On l'a créé ensemble. Il y a beaucoup de toi dans ce prix-là. Je ne peux pas parler de Sophie sans parler du travail extraordinaire de Raphaël Ouellette. » Rapidement dans le Journal de Montréal, un petit mot de Sophie Durocher qui dit « Quel gala ! Hier soir, Véronique Loutier et Éric Salvaille ont fêté les 30 ans des Gémeaux avec mordant, humour et talent. Leur numéro d'ouverture a été rien de moins qu'impeccable, réussi au quart de tour. Manifestement, dit Madame Durocher, le travail d'humoriste de Véro sur scène dans les Morissettes lui a permis de peaufiner encore plus son sens du punch et de l'effet comique. J'étais assise dans la salle, je la voyais aller en vrai, sans le filtre de la télé, et j'étais impressionnée par son aplomb. Et l'interaction entre les deux bêtes de télé me faisait penser au duo d'enfer de Tina Fey et Amy Poehler aux Golden Globes. Des vacheries bien lancées, aïe aïe François Bouguingo, et juste ce qu'il faut de blagues pour adultes, en dessous de la ceinture, aïe aïe l'utilisation des trophées comme jouets sexuels. Mémo au patron de Radio-Canada, est-ce qu'on peut signer déjà leur contrat pour l'année prochaine, s'il vous plaît ? C'est toujours très intéressant lorsque deux critiques vont voir le même spectacle, qu'ils écrivent le lendemain dans leurs journaux respectifs et qu'ils ne sont absolument pas d'accord. Par exemple, en ce qui concerne Madame Butterfly, présentée en ce moment à l'Opéra de Montréal, Claude Gingras titre « Très émouvante, Madame Butterfly ».« Très émouvante Butterfly » d'ailleurs tout court, alors que dans Le Devoir, non, ce n'est pas du tout ça sous la plume de Monsieur Huss. Je vais vous lire un petit peu ce que dit d'abord Claude Gingras. Claude Gingras qui dit qu'il a vu la production du tandem argentin Roberto Osvaldo Hannibal Lapis de Madame Butterfly à l'Opéra de Montréal en 88, 93 et 2002. Celui qui vous parle a redécouvert dans une nouvelle fraîcheur cette scénographie magnifiquement dépouillée, l'une des belles acquisitions des 35 ans de l'ODM. La révélation du spectacle reste cependant Melody Moore, soprano américaine au prénom prédestiné dans dans le rôle titre. Alors, c'est la quatrième fois que l'ODM utilise la production Oswald Lapis pour la célèbre Tragedia Giapponese de Puccini, mais la septième fois qu'il monte celle-ci. Hors de toutes les interprètes du personnage central, la nouvelle venue Mélodie Mort est certainement la plus complète. Tout est là. La voix, tout à la fois riche, souple et étonnamment puissante, la présence scénique toujours entière, aux gestes généreux et expressifs, enfin le jeu constamment varié, intelligent, héroïque même, émouvant, au point de jeter un silence de glace dans la salle comble. Bien sûr, il ne faut pas chercher là l'image exacte d'une adolescente passant de 15 à 18 ans en 3 heures de spectacle. Nous sommes à l'opéra, après tout, nous rappelle Monsieur Gingras. Alors, donc, de son côté à lui, pas de problème, très très belle soirée. Mais comme je vous le disais, du côté de Christophe Huss, oh, c'est pas tout à fait le même avis. Madame Butterfly, lui, il titre « Faut-il faire semblant d'y croire ?» Cette production de Madame Butterfly est celle que l'Opéra de Montréal, oui, ça on le sait déjà, nous avait présentée 3 fois. C'est ce que nous a rappelé tout à l'heure Monsieur Gingras. Et là, il dit, on retombe à un niveau, disons, gentiment commun pour ce millésime 2015, nouvellement animé par la mise en scène de François Racine et les éclairages d'Anne-Catherine Simard de Raspe. François Racine, habitué à monter des spectacles estudiantins réalisés avec des bouts de ficelle, mais qui cachent bien leur manque de moyens, trouve à l'Opéra de Montréal un accessoire bien connu dès paravent. Comme ici, on a un peu plus de sous, ceux-ci sont munis de roulettes. François Racine n'est pas du genre à niaiser avec la POC. À ceux qui s'étonnent que le suicide habituel par harakiri de Butterfly soit transformé en une quasi-décapitation, on apprendra que cela n'a rien à voir avec l'actualité et les macabres rituels du groupe État islamique. Monsieur Huss qui dit que sur le plateau, rien de spécial, à part le faible goro de James McLennan, tout le monde est à sa place, mais sans aura particulière, à part le jeune Christopher Dunham qui joue Yamadori, membre fort intéressant de l'atelier de l'ODM. Et puis quand même un mot de Monsieur Huss et de Monsieur Gingras qui a remplacé Demos Flemmotomos pour les 2 premières représentations. Le rôle de Pinkerton, vous savez, c'est terrible pour un chanteur d'opéra comme ça de remplacer à pied levé. Le rôle de Pinkerton ne lui pose pas de problème, la voix n'est pas des plus puissantes, mais le timbre est beau et il chante juste. Monsieur Gingras lui trouvait que le monsieur faussait un peu. Ben, c'est pas qu'il faussait, qu'il allait un petit peu trop dans les aigus. Dans la fosse, un départ, un début mou pour James Mina, qui tient correctement son monde, rien à voir avec les houles déclenchées par Yannick Nézet-Séguin en 2008. Bref, de l'opéra utilitaire qui remplira les caisses, agréable pour les novices, moyens et lassant pour ceux qui ne se contentent pas de l'ordinaire. Comme quoi, voyez-vous, Gingras a passé une soirée formidable, mais Huss, bof, pas plus que ça. Puis le TIFF, le festival du film de Toronto, s'est terminé dimanche soir. Ce n'est pas un film québécois qui a reçu, qui a été sacré meilleur film canadien. Généralement, ça tombe souvent, mais pas toujours, un film québécois. Dans ce cas-là, c'est un film canadien qui a été sacré dimanche meilleur film canadien au 40e Festival international du film de Toronto. C'est Closet Monster de Stephen Dunn qui a remporté ce prix. Philippe Falardeau, pour sa satire politique et Guy Bors en va-t-en-guerre, a reçu une mention honorable du jury. Film loué pour son intelligence agile et son esprit cinématographique. Le Québécois Patrice Laliberté pour Viaduc, Overpass, récoltait de son côté le prix du meilleur court-métrage canadien pour son approche non conventionnelle du deuil dans une famille, avec un coup de chapeau à la performance de Théo Vachon-Saint-Saëns. Alors, le prix de la critique internationale offrait ses lauriers dans la section présentation spéciale à Desierto de Jonas Cuaron avec Gael Garcia Bernal, thriller sur des migrants mexicains traqués à la frontière américaine. Dans la catégorie découverte, les suffrages sont allés à Eva Nova du Slovaque Marko Skop sur une ancienne star intoxiquée s'essayant tardivement au rôle de mère pour son humanité et sa dignité. Le prix du meilleur premier long-métrage canadien est allé à l'Ontarien Andrew Cividino, qui a signé une espèce de fable adolescente qui s'appelle Sleeping Giant. Et puis, quoi d'autre encore? Dans la nouvelle section compétitive plateforme, le documentaire Hurt du Torontois Alan Zweig explorait la descente aux enfers de Steve Fonio avec après célébrité acquise en parcourant le Canada sur une seule jambe pour récolter des fonds contre le cancer. Et en 2013, Zweig avait remporté dans ce même festival le prix du meilleur film canadien pour son documentaire « When Jews Were Funny ». Dans les opinions, j'ai envie de vous lire ce que Madame Geneviève Ling a envoyé et fait paraître dans la presse, dans la section débat. Madame Ling, qui est conseillère aux familles chez Baluchon Alzheimer, qui nous dit « Aujourd'hui est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. » C'est un sujet d'ailleurs dont nous avons parlé un petit peu plus tôt à l'émission. Une maladie qui n'affecte pas seulement la santé physique du sujet, mais aussi ses capacités affectives, relationnelles et sociales. Lorsque le diagnostic tombe, un tourbillon de questions déferle dans la tête du malade et dans celle des membres de sa famille. La détresse provoquée la détresse provoquée par la difficulté de saisir pleinement l'impact de la maladie suscite plusieurs interrogations auxquelles médecins intervenants et spécialistes tenteront de répondre. Pour la personne la plus proche du malade, les questions sont bien précises. Qu'adviendra-t-il de celui ou de celle qui a partagé ma vie, mes expériences et mon histoire? Que deviendra l'entité que nous formions? Le diagnostic n'arrive jamais avec un manuel du parfait proche aidant qui serait à la fois un abrégé de médecine, de soins infirmiers, de psychologie et de pharmacologie. Obligé de donner les soins nécessaires, de gérer le processus de deuil inhérent à la maladie, de passer des nuits blanches et de ressentir des émotions intempestives, l'aidant risque de perdre de vue sa propre personne. Même motivé par un amour indéfectible, la décision de garder à domicile, contre vents et marées, la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut amener son lot de doutes, de difficultés et surtout d'isolement, compte tenu des limitations physiques et de l'épuisement prévisible. Pourtant, il suffirait parfois qu'il puisse échapper ne serait-ce que quelques jours à l'obligation d'être en état de veille 24 heures sur 24 pour pouvoir se ressourcer et briser l'isolement. C'est souvent la manière d'être en relation au jour le jour avec la personne atteinte et la capacité de continuer à percevoir l'humain derrière les pertes cognitives et les amnésies qui deviennent un défi, voire un fardeau. En cette journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, je tiens à souligner l'implication et la capacité d'adaptation extraordinaire de tous les proches aidants, de même que le grand dévouement des baluchonneuses. Voilà, je m'en voudrais de finir cette émission sans avoir une pensée justement pour les gens atteints de la maladie d'Alzheimer et les aides-soignants, le personnel aidant, mais aussi les membres de la famille qui les accompagnent dans ce désert du cerveau qu'est cette maladie-là. Je voudrais remercier aussi Rémi Hermoso de l'autre côté. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Kevin Breton qui va nous présenter aujourd'hui le bulletin du handicap. C'était Clotilde Say qui était avec vous depuis 9h ce matin, qui a besoin d'aller prendre un petit peu de repos, qui commence à chercher ses mots à cette heure-là. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous retrouve demain à 9h.
Canal M pour voir autrement.
Le bulletin du handicap.
Bonjour à vous tous, ici Kevin Breton et voici le bulletin du handicap en ce lundi 21 septembre. Appel aux usagers du transport adapté de la rive sud. Responsabiliser les commerçants pour l'accessibilité, une stratégie gagnante. Rodolphe, le tétraplégique, pose nu pour la sécurité routière. Et au sport, Mainville termine 10e devant les siens. Le RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, invite ses membres usagers du transport adapté de la Rive-Sud à participer à une rencontre préparatoire qui a pour objectif de structurer les interventions en vue d'une participation en groupe à la prochaine réunion du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil et au rendez-vous de la présidence le 1er octobre prochain. La rencontre préparatoire aura lieu le 29 septembre de 18h30 à 20h30 à la salle Jean Cipiotte, au troisième étage de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Les points soulevés lors de cette rencontre porteront sur les différents sujets d'insatisfaction des usagers du transport adapté de la Rive-Sud et sur la perte d'acquis. Pour plus d'informations ou pour donner votre nom, vous pouvez communiquer avec Mme Josée Boyer au 514-277-4401, le 514-277-4401, le poste à composer est le 116. Le 7 juillet dernier, le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, le CAPVICH, lancé à Québec, sa trousse « L'accessibilité au service des commerçants ». Au même moment, à l'autre bout de la province, la ville de Gatineau était à peaufiner un projet pilote semblable. Dans plusieurs municipalités, on consacre temps et énergie à promouvoir l'accessibilité des petits commerces, quelque chose que Mme Anne Hébert, directrice générale de l'Office des personnes handicapées du Québec, voit d'un très bon œil. Elle affirme « Responsabiliser les commerçants est une excellente stratégie » pour réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées dans une ville. Des outils d'information comme une brochure sur l'accessibilité, des fiches techniques sur les normes d'accessibilité ou encore la trousse en question du CAPVICH peuvent être utiles à cet égard. Des stratégies de renforcement positif comme le prix d'excellence qu'octroie la ville de Victoriaville ou l'Association des personnes handicapées des îles peuvent aussi contribuer à responsabiliser les commerçants. Les municipalités peuvent agir de différentes façons pour favoriser l'accessibilité des commerces situés sur leur territoire. En effet, elles peuvent, par règlement, prévoir des normes de conception sans obstacle pour la construction ou la transformation des petits commerces qui ne sont pas assujettis, dis-je bien, au code de construction, c'est-à-dire ceux dont la superficie totale est inférieure à 300 mètres carrés. Elles peuvent aussi inclure des directives à ce propos dans leur politique concernant le développement des commerces et des services ou encore inclure cette préoccupation dans leur stratégie de revitalisation. Enfin, elles peuvent accorder une assistance financière aux commerces qui souhaitent améliorer leur accessibilité. D'ailleurs, la ville de Victoriaville a aussi adopté cette approche. Votre municipalité ou votre organisme songe à promouvoir l'accessibilité commerciale de proximité? Pourquoi ne pas vous simplifier la tâche en profitant de l'expérience et des outils conçus par d'autres organisations? Parions que les précurseurs en ce domaine seront honorés de vous aider. On se transporte maintenant en France pour une nouvelle qui fait jaser d'un côté d'une manière positive, d'un autre côté d'une manière négative. C'est un article tiré du portail handicap.fr, titré « Rodolphe, tétraplégique, pose nu pour la sécurité routière ». Un corps parfait avant, un corps défait après l'accident sur un fauteuil roulant. Il conduisait, il avait bu. C'est la photo choc de la nouvelle campagne de la sécurité routière. Une histoire vraie, Sportif de haut niveau, Rodolphe a 22 ans lorsqu'il pose pour la première fois devant l'objectif du photographe Joseph Caprio, qui travaille sur le nu masculin. Ce modèle à la beauté insolente, aux formes puissantes, inspire à Joseph plusieurs séries de clichés remarquables. Pourtant, 8 ans plus tard, le samedi 23 février 2002, c'est quelques verres d'alcool qui mettent le colosse à terre. Rodolphe quittait une pizzeria où il buvait avec ses amis pour rejoindre son véhicule. Il ne se réveillera que 6 mois plus tard, tétraplégique, cloué à son lit d'hôpital, tout à rebâtir. En 2015, plus de 20 ans plus tard, le modèle a une idée magnifique. Pour que son histoire ait du sens, il rappelle Joseph. Cette fois, Rodolphe veut exposer au regard son corps paralysé, porté par son fauteuil roulant. Privé de l'usage de la parole, il utilise l'image de sa tétraplégie, plus éloquente que les mots, pour faire passer son message. À l'image de son histoire, tragiquement banale, en une fraction de seconde, la vie peut basculer, passer du meilleur au pire, du rêve au cauchemar. Pour les victimes et leurs proches, le message de ce cliché, entre ces deux séances photos, 21 ans, 4 mois, 11 jours et quelques secondes d'inattention. Accompagné dans cette démarche personnelle par la sécurité routière, Rodolphe témoigne pour prévenir les jeunes qui imaginent naturellement que, même sur la route, ils sont à l'abri du danger. Pour montrer que boire et conduire peut être fatal. Chaque jour en France, 9 personnes sont tuées et 100 gravement blessées sur les routes. Alcool, vitesse, stupéfiants, téléphone au volant, les accidents de la route représentent la première cause de mortalité chez les jeunes. Suite à un été 2015 particulièrement meurtrier, Manuel Valls avait déclaré la tenue d'un comité interministériel de sécurité routière pour prendre des mesures destinées à endiguer cette hausse. Cette nouvelle campagne n'est pas sans rappeler le spot de mars 2015 qui avait divisé. Il mettait en image 7 personnes handicapées après un accident lors de leur rééducation dans un contexte d'images grises, de visages fermés, de regards d'une tristesse déchirante. Le message « Un accident peut durer toute une vie ». Certaines personnes concernées avaient déploré que ce film donne une représentation négative, culpabilisante et réductrice du handicap. Le directeur de la communication de l'Association des paralysés de France, Yann Bosson, l'avait jugé irresponsable. Qu'en sera-t-il maintenant pour la publicité de Rodolphe? Et en terminant maintenant, une dernière nouvelle au sport. Malgré une tendinite au bras droit, Pierre Mainville s'est classé 10e à l'épée samedi à la Coupe du monde d'escrime en fauteuil roulant qui était disputée à Montréal dans le cadre du défi sportif Altergo. Évoluant en classe B, Mainville a entamé sa journée en signant une fiche de 5 victoires et une défaite en ronde de poule. Comme ça faisait longtemps que je n'avais pas tiré pour soigner ma blessure, je reste assez surpris de ma performance. Je m'attendais à battre 2 ou 3 tireurs, mais j'ai réussi à mieux m'imposer que je pensais contre des athlètes un peu plus costauds, à analyser l'athlète de Saint-Colomba, je ne sais pas si je prononce bien la ville d'origine de M. Mainville. Les touches rentraient, mais stratégiquement, je n'étais pas là. Ça a paru en ronde éliminatoire sur un 15 touches. Après avoir profité d'un laissé-passer dans le tableau des 32, Mainville a croisé le fer avec le Russe Alexander Kouzikov, premier au classement mondial. Le Québécois, 9e au monde, s'est incliné par la marque de 15-5. Il dit « J'ai eu de la difficulté à m'ajuster. Je n'avais pas vraiment de plan de match à exécuter. J'essayais de faire rentrer mes coups, mais ça fonctionnait pas très bien. » Il a mentionné « Le Russe m'a touché 6 fois de la même façon sans que je réussisse à comprendre ce qu'il faisait. » L'inactivité des dernières semaines s'est fait ressentir en piste samedi. Il dit « Il me manque d'expérience de combat et d'analyse de combat, mais ça devrait revenir rapidement. » Donc, c'était tout pour les nouvelles du bulletin du handicap en ce lundi 21 septembre. Je vous rappelle que les organismes sont toujours les bienvenus à nous faire parvenir leurs nouvelles ou leurs communiqués en envoyant un courriel à canalem@vusezvoix.com. Merci beaucoup d'avoir été là et à demain.